Elle saignait de partout, quoi. Elle saignait même des yeux, du nez, des oreilles. C'était horrible.
Il l'avait à plusieurs reprises menacé soit de la tuer, soit de se tuer si elle le quittait.
Pour moi, c'était logique que c'était lui. Ça pouvait être personne d'autre.
Il dit « Je suis parti ». Elle était encore en vie.
Il est venu de suite me voir pour me dire « Bernard, j'ai jamais tué ma femme, c'est pas moi, c'est pas possible ».
Evelyne n'avait pas seulement une relation intime avec Robert, mais également avec François.
Evelyne aurait pu révéler au grand jour l'existence de leur relation.
Pourquoi veut-il la cacher? Est-ce que ça en fait pas un suspect formidable, ça?
1er octobre 2007, à Castelsarrasin, dans le Tarn-et-Garonne. Il est 17h45. Après une journée passée en cours, Julie, une collégienne de 14 ans, rentre chez elle. Ses parents sont divorcés et depuis 6 mois, elle vit seule dans cet appartement avec sa mère, Evelyne Furlan, 52 ans. Et ce soir-là, en arrivant chez elle, Julie réalise que quelque chose ne va pas.
Sur le coup, je vois pas ma mère. Je regarde un peu partout, je l'appelle, personne ne me répond. Et quand j'avance au niveau du couloir, en fait, je tourne ma tête au niveau de la chambre. Et là, je la vois, en fait, elle était sur le lit, mais je la vois pas. Elle était recouverte, en fait, d'un drap. Et elle était encore en chemise de nuit. Et donc, je lui parle, elle me répond pas. Elle avait son bras qui tombait un peu du lit. Et c'était un peu bleu, violet. Et donc moi, sur le coup, je croyais qu'elle était malade et qu'il fallait que je l'aide. Donc je m'approche d'elle et en fait, je lève le drap et là, j'ai vu qu'elle était décédée.
Malgré le choc, Julie réalise que le meurtrier est peut-être encore dans l'appartement. Elle doit fuir, au plus vite.
Je me suis retournée en fait, et je pensais qu'il était là et que j'allais y passer, hein, honnêtement, je pensais que j'allais y passer. Et je suis partie pour demander de l'aide, pour qu'on puisse m'aider.
L'adolescente s'échappe dans la rue et rencontre un voisin.
Il dit « Je t'en prie, vite, aide-moi, appelle la police, maman elle est décédée, aide-moi, il faut que tu m'aides ». Et donc là, il m'a dit « Rassure-toi, calme-toi, explique-moi calmement ». Moi, j'ai dit « Non, vite, vite, il faut que tu appelles ». Donc il a appelé, la police est venue aussitôt.
Le commissariat de Castelsarrasin est à moins de 800 mètres. Les policiers arrivent en quelques minutes à peine. Et une fois sur place, ils ne peuvent que constater l'évidence. Dans la chambre d'Evelyne Furlan, ils sont confrontés à une scène horrible. Le visage de la victime est méconnaissable. La quinquagénaire a été étranglée. Et il ne faut pas chercher trop loin l'arme du crime. Elle est toujours là, près du corps.
L'arme du crime, c'est un cordon électrique qui est le câble d'alimentation de la radio.
La coloration de la peau était extrêmement rosée, violette, ce qui témoignait d'une importante force lors de la strangulation au lien.
Le tueur a fait un double tour avec le câble électrique pour étrangler très violemment Evelyne Furlan.
Une strangulation si importante qu'elle a occasionné des dégâts ignobles. Impossible pour Julie d'oublier cette vision macabre.
C'était vraiment bien ouvert et elle saignait de partout, quoi. Elle saignait même des yeux, du nez, des oreilles, de la bouche, du cou, de partout. De partout. J'avais toute la tête, quoi. C'était horrible.
Le SRPJ de Toulouse est saisi de l'affaire. Et comme toujours, les investigations débutent avec les experts scientifiques.
Les techniciens en identification criminelle de la police judiciaire ont passé un temps fou dans cet appartement pour essayer de trouver tout indice pouvant aider l'enquête, comme on dit, c'est-à-dire la salive, d'éventuelles taches de sperme, de sang, de cheveux, d'empreintes digitales également. Toute la maison est passée au peigne fin.
Une chose est certaine, l'arme du crime n'a pas été apportée de l'extérieur. Car dans le salon, les policiers retrouvent ce poste radio auquel manque son câble d'alimentation. Enfin, sans attendre les résultats de l'autopsie, les enquêteurs sont à même de déterminer l'heure du crime, et cela grâce à certains détails.
Elle est découverte, il est à peu près 18h, elle est toujours en chemise de nuit. Les tasses de café du petit déjeuner sont encore là. De toute évidence, la vie s'est arrêtée le matin même, en fait.
Le médecin qui constate le décès confirme l'hypothèse. Grâce au relevé de température sur le cadavre, il date approximativement la mort au matin même, un peu avant 8h30. En attendant les résultats des analyses des différents prélèvements, les policiers remarquent une chose étonnante. La porte n'a pas été fracturée, ce qui ne laisse que trois hypothèses possibles.
Ça veut dire que soit Madame Furlan a ouvert à la personne qui l'a étranglée, soit cette personne avait la clé, soit cette personne était déjà dans les lieux.
Evelyne Furlan connaissait-elle son meurtrier ? Un autre indice semble conforter cette hypothèse.
Sur le canapé dans le séjour se trouvent deux oreillers et une couverture, laissant penser que quelqu'un a dormi sur ce canapé cette nuit-là.
Alors, qui a dormi chez Evelyne cette nuit-là ? Pourrait-il s'agir du meurtrier ? Julie, la fille de la victime, doit être entendue au plus vite. La jeune femme révèle alors aux policiers l'identité de la personne qui a passé la nuit chez eux la veille. Il s'agit d'un homme. En l'occurrence, il s'agit de l'ex-petit ami de sa mère, Robert Koutama, un Antillais de 55 ans. Et voici ce que Julie raconte à la police.
Je vois qu'il commence à enlever sa veste, bon, se mettre à l'aise sur le canapé. Et moi, bon, je ne l'appréciais pas vraiment, donc je lui ai lancé un petit peu des piques et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Non, mais rien, j'aimerais discuter un peu avec ta mère. »
Il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de disputes violentes, mais enfin, il y a eu manifestement une explication entre deux. Et Robert Koutama, d'après Julie Marie, lui aurait dit « Tu peux pas faire ça, tu peux pas me quitter comme ça, c'est pas possible. »
Bon, j'ai dit « Bon, ben, moi, ça me regarde pas, hein, c'est vos histoires, voilà. » Donc, je suis partie dans la chambre. Après, je sais pas ce que je disais aux policiers. Je sais pas vraiment ce qui s'est dit.
Retirée dans sa chambre, Julie n'a rien entendu de plus. Ensuite, la jeune fille raconte qu'au cours de la soirée, sa mère est passée la voir pour la rassurer.
Je pense qu'elle m'a dit « Non, bon, t'inquiète pas, on finit de discuter, il va s'en aller, voilà. Y a pas de problème, quoi. Laisse tomber, va dormir. » Voilà, quoi. À peu près, c'était quelque chose comme ça.
Julie se couche et le lendemain matin, à son réveil, elle découvre que Robert Koutama est toujours là. Et quelque chose intrigue la jeune fille.
Il y avait Robert qui était là dans la cuisine et il fumait sa cigarette, voilà, il nous regardait. Ma mère, elle se préparait parce qu'elle avait rendez-vous pour du travail. Donc très contente, elle se préparait, elle se pomponnait, faisait le retour entre salle à manger, chambre et salle de bain. Et il n'arrêtait pas de la regarder. Il a fixé. Je trouvais ça bizarre, enfin inhabituel du moins, venant de lui, parce que pourquoi la fixer autant, je ne sais pas.
Vers 7h20, l'adolescente se prépare à quitter l'appartement et dit au revoir à sa mère qu'elle laisse seule avec Robert Koutama. À partir de là, Julie n'aura plus aucune nouvelle de sa mère. Alors Robert Koutama a-t-il quelque chose à voir avec la mort d'Evelyne Furlan ? Pour le savoir, les enquêteurs décident de partir à sa rencontre, mais auparavant, ils veulent en savoir plus sur Evelyne. Qui était-elle ? Quelqu'un pouvait-il lui en vouloir ? Maman de trois enfants issus de deux unions différentes, Evelyne Furlan était divorcée depuis 6 ans du père de Julie. Cette femme de 52 ans était très croyante et semblait unanimement appréciée dans son entourage. C'est ce que nous confirme l'une de ses meilleures amies que nous avons retrouvées, mais qui a préféré garder l'anonymat.
Elle a tout pour elle, quoi. Elle allait à l'église, c'est quelqu'un qui aurait fait tout pour ses gosses, c'est quelqu'un qui était patiente, qui était à l'écoute, c'est quelqu'un qui, même si elle a rien, elle va faire tout pour t'aider.
C'était quelqu'un de joyeuse. Dès qu'elle pouvait aider, elle le faisait. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Vraiment.
Pourtant, la vie n'avait pas été tendre avec Evelyne. Diabétique et souffrant de problèmes aux reins, elle était sans emploi et percevait une pension d'invalidité. Elle venait d'ailleurs de décrocher un rendez-vous important et reprenait espoir de retrouver un travail. Mais derrière ce portrait sans histoire, les enquêteurs découvrent que la mère de famille cachait un secret. Et comme souvent, c'est son téléphone portable qui va se révéler bavard.
Les policiers découvrent un numéro de téléphone qui est très souvent utilisé par Evelyne. Donc ils vont faire identifier l'utilisateur de cette ligne téléphonique et ils vont tomber sur un individu qui se prénomme François.
Les policiers ne connaissent pas ce François. Jusque-là, personne n'avait mentionné ce prénom. Ce sont les nombreux textos échangés entre Evelyne et cet homme qui vont révéler la vraie nature de leur relation.
Là, ils vont découvrir que finalement, Evelyne n'avait pas seulement une relation intime avec Robert, mais également avec François. Et visiblement, ces deux-là se voyaient très régulièrement, très souvent, et en tout cas, ils communiquaient beaucoup.
Les enquêteurs fouillent alors la vie de l'homme en question.
Il habite à Castelsarrasin, il est marié, il n'est jamais tombé dans une affaire de droit commun, de violence ou d'un quelconque délit ou crime.
L'enquête démontre alors que non seulement ce quinquagénaire entretient une relation intime avec Evelyne, mais qu'en plus, elle ne date pas d'hier.
Et visiblement, il connaît Evelyne Furlan depuis très longtemps.
En fait, ils sont déjà sortis ensemble quand ils étaient jeunes. Et ils se sont retrouvés par hasard. Et ça a été de nouveau le même coup de cœur.
Au fur et à mesure des investigations, une conviction se forge doucement chez les enquêteurs. Le criminel se trouve forcément dans l'entourage de cette femme sans histoire. Il y a Robert Koutama, l'ex-petit ami. Mais aussi François, l'amant militaire. L'un de ces deux hommes en voulait-il à la mère de famille au point de l'assassiner sauvagement ? Et si oui, pour quelle raison ? C'est Julie, la fille d'Evelyne, qui va apporter une indication essentielle à propos de Robert Koutama. Evelyne et lui se sont bel et bien aimés pendant 4 ans, mais petit à petit, des tensions sont apparues. Julie raconte les disputes dont elle a été témoin.
J'avais compris dans leurs disputes qu'apparemment il avait eu trompé plusieurs fois. Quand il buvait, il était quand même assez agressif, au moins au niveau de la voix. Il levait la voix. Pour moi, ça faisait bizarre parce que j'étais petite et ça m'impressionnait parce qu'il levait la voix et ça criait. Après, une fois, je sais que j'étais sur le canapé. J'étais allongée et il y avait une dispute avec ma mère. J'ai voulu prendre la défense de ma mère, donc je lui ai mal parlé. Et ça lui a pas plu, il avait bu et il s'est approché de moi, il m'a levé la main. Sans me taper, mais il m'a levé la main dessus. Et ouais, là, ça a été... pour moi, ça a été le déclic. Je l'ai détesté. Honnêtement, je l'ai détesté.
Julie déteste Robert Koutama, à tel point qu'à la fin de son audition, elle n'hésite pas à dire que pour elle, c'est forcément lui qui a tué sa mère.
Il lui avait fait des menaces, il lui avait dit « voilà, si tu me quittes, je te tuerai ». Et ouais, donc pour moi, ça pouvait être que lui. C'était sûr pour moi que c'était lui. Parce que ce matin-là, quand je suis partie à l'école, il était là. Donc pour moi, c'était logique. Le soir, quand je suis rentrée à la maison, elle était toute seule. Pour moi, c'était logique que c'était lui. Ça pouvait être personne d'autre.
On a un coupable désigné par quelqu'un de très proche, qui est une enfant, qui est une adolescente, et qui est, une fois de plus, témoin de rien, mais témoin d'un ressenti.
Dès le lendemain de l'audition de Julie, au petit matin, les policiers interpellent Robert Koutama, et ils n'y vont pas de main morte.
connaissent pas la dangerosité de la personne. Ils utilisent un bélier pour défoncer la porte. Et ils le trouvent à 6 heures du matin, dans son séjour.
Il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Il se laisse appréhender sans aucune difficulté parce que c'est conforme à son caractère.
Les policiers perquisitionnent le domicile de Kutama et d'emblée, cela s'annonce intéressant.
Là, ils trouvent des éléments qui les troublent un peu, notamment la présence d'un jean qui est encore mouillé et qui est en train de sécher. Deux t-shirts qui semblent présenter d'ailleurs des traces de sang, des traces brunâtres.
Robert Kutama a lavé ce linge la veille, précisément le jour de la mort d'Evelyne.
On retrouve surtout une boîte de pastilles, de détergents, dont trois pastilles ont été utilisées. Il y a encore leur emballage cellophane sur la table de la machine à laver.
Trois pastilles de détergent pour une seule lessive. Étrange. Les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Le passage du Blue Star dans la voiture de Robert Kutama se révèle positif.
La portière avant gauche va réagir au produit, ce qui veut dire qu'on retrouve des traces de sang sur la portière conducteur, ce qui veut dire qu'il a pu se frotter, s'il avait du sang sur son jean, en fermant la porte ou quelque chose comme ça. Donc tout ça, entre les vêtements encore mouillés qui ont été lavés la veille, plus les détergents en quantité importante, tout laisse penser quand même qu'il y a un truc qui ne va pas.
Robert Kutama est placé en garde à vue au SRPJ de Toulouse. Il doit s'expliquer. Dès le lendemain, l'arrestation de Robert Kutama fait la une des journaux. Et lorsqu'ils apprennent la nouvelle, ses proches n'en croient pas leurs yeux. C'est le cas de Xavier Sanchez, un ami du meurtrier présumé.
La douche froide. Ah non, c'est impossible. C'est impossible.
Le patron de Robert Kutama n'imagine pas non plus que cet honnête maçon puisse être coupable.
C'est pas possible. Tout le monde s'est posé la question dans l'entreprise. Comment Robert aurait pu faire ça, c'est pas possible. Pour nous, c'était... On tombait des nues, quoi. Un homme très souriant, très jovial, sociable, très sympa, travailleur, voilà. Enfin, moi, l'image de Robert, c'est ça, c'est ce visage avec ce grand sourire, toujours rigolé, quelqu'un de bien, quelqu'un de bien.
Alors que des accusations de meurtre pèsent sur lui, Robert Kutama se montre incroyablement serein. Même lorsqu'il est présenté au juge d'instruction.
Je suis en face d'un homme particulièrement tranquille, très calme, qui paraît presque détaché par rapport à ce qui se passe. On est quand même sur une enquête criminelle, donc il y a nécessairement une forme de tension. Et lorsque je viens lui notifier la prolongation de sa garde à vue, il ne laisse vraiment paraître aucune émotion.
Et Robert Kutama répète qu'il n'a rien à voir avec la mort d'Evelyne Furlan.
Il nie toute responsabilité dans ces événements. Il dit « Je suis accusé du meurtre de ma compagne. Je n'y suis pour rien. Je suis parti. Elle était encore en vie. »
Kutama répond à tout, même lorsque les enquêteurs lui demandent pourquoi ses habits sont tachés de sang.
Il va indiquer qu'il a des problèmes d'hémorroïdes, qu'il a des pertes de sang et que ce sang, c'est son sang.
Et puis, concernant les pastilles de détergent dont on a retrouvé les emballages chez lui, Kutama explique les avoir utilisées pour déboucher son lave-linge et non pour effacer des traces de sang.
Il pensait que la machine à laver le linge était bouchée et il pensait pouvoir utiliser ce produit Tarax pour déboucher la machine à laver le linge.
Alors évidemment, les policiers vont abattre leur carte maîtresse et ils vont dire « Mais la fille, Julie Marie, dit que c'est vous, monsieur. Elle dit que c'est vous. »
Il est dans l'incompréhension totale. Il ne comprend pas que Julie Marie le remette en cause. Il ne comprend pas ses reproches parce que selon lui, tout allait bien avec elle et tout allait bien avec Evelyne.
Ils considèrent qu'ils sont toujours ensemble, que certes, il y a des hauts et des bas. Certes, il a pu lui arriver d'être violent, mais verbalement.
Robert Koutama explique qu'Evelyne ne voulait pas le quitter. Le couple ne vivait plus ensemble, c'est vrai, mais c'était un choix.
C'était simplement pour qu'elle se rapproche de sa mère qui était malade et pas du tout pour se séparer de lui. Donc il présente Evelyne Furlan comme sa compagne actuelle.
Robert Koutama le répète, Evelyne, c'était la femme de sa vie.
Evelyne, pour lui, c'était, comme il m'a dit une fois, au moment où ils se sont séparés un petit peu, il me dit, je te le dis à toi, ça se dit pas en trompe de chantier, mais je peux te dire que elle, je l'aime. Voilà ce qu'il m'a dit.
D'ailleurs, une semaine avant le drame, Xavier avait croisé Robert et Evelyne ensemble. Selon lui, tout allait bien. Ils avaient même des projets.
Et elle m'a dit, est-ce que Robert t'a parlé des projets qu'on a ? Et j'ai dit, vaguement. Et il m'a dit, ouais, parce qu'on va... Donc pour les fêtes de Noël, ils avaient l'intention de partir en Martinique pour prospecter, pour voir si éventuellement ils pouvaient, à la retraite ou peut-être avant, partir en Martinique, pour être chaud, quoi.
Robert Koutama et Evelyne Furlan étaient-ils toujours amoureux ? Ou au contraire, étaient-ils en train de se séparer, provoquant la colère de Robert ? Sans preuve ni mobile avéré, les policiers demandent à Robert Koutama de préciser son emploi du temps dans les heures qui précèdent le drame. D'abord, il explique qu'il est bien arrivé chez Evelyne la veille de sa mort.
Ce soir-là, il est arrivé chez Madame Furlan. Il leur a proposé d'aller se faire un restaurant. Elles n'ont pas voulu. Il a dormi sur le canapé-lit. Il a regardé la télévision.
Toujours selon ses déclarations, le lendemain matin, tout le monde se réveille et se prépare à partir.
Robert Koutama indique qu'il est parti de cet appartement un quart d'heure après Julie pour retourner chez lui à Toulouse. Il indique qu'il a préféré partir tôt, parce que ça peut paraître un peu effectivement précipité, parce qu'il n'avait pas de permis de conduire à cette époque-là et qu'il considérait qu'à cette heure-là de la journée, il avait moins de chances de se faire contrôler sur la route.
Robert Koutama aurait donc quitté Evelyne à 7h45, mais au fur et à mesure que l'interrogatoire avance, il s'embrouille sur les horaires et se montre de moins en moins convaincant.
Pour les policiers, ça ne peut être que lui. Ils n'ont personne d'autre. Il est le dernier à l'avoir vue vivante. Il a des taches de sang sur ses vêtements, dans sa voiture. Il a acheté un détergent. Il dit que tout va bien dans le couple, mais on sait que ce n'est pas complètement vrai. Donc tout ça l'habille formidablement bien.
On sent beaucoup de versions changeantes en fonction des arguments que les enquêteurs peuvent lui mettre sous les yeux. On sent des explications très variables, des choses qui tiennent pas la route.
La juge décide de mettre Robert Koutama en examen. Mais l'homme va bientôt être au centre d'un énorme coup de théâtre. Robert Koutama va-t-il partir en prison ? Tout le laisse à croire. Mais un élément a priori anodin va tout changer. Lors de la perquisition de l'appartement de Robert Koutama, un ticket de caisse avait été saisi. Il correspond à l'achat des pastilles de détergent.
On retrouve un ticket de caisse du jour de la mort d'Evelyne Furlan, donc le 1er octobre 2007. Un ticket de caisse d'un petit supermarché pas très loin du domicile de Monsieur Koutama, qui est horodaté à 9h14.
C'est certain, à 9h14, Robert Koutama était donc à Toulouse. Puisqu'il faut presque une heure et demie pour parcourir le trajet de Castel-Sarrazin, où vit Evelyne à Toulouse, cela signifie que Robert, s'il est bien le meurtrier, aurait tué Evelyne avant 7h50. Et souvenez-vous, Julie, la fille d'Evelyne, a quitté l'appartement de sa mère aux environs de 7h20. Robert Koutama, décrit comme calme ce matin-là par Julie, se serait donc transformé en homme violent au point d'étrangler son ex-compagne en moins de 30 minutes. Ce n'est pas impossible, mais c'est peu crédible.
On ne comprend pas comment Robert Koutama peut, en une demi-heure, dégoupiller, s'énerver sans avoir bu d'alcool, au point d'aller étrangler Vin Furlan alors qu'ils ont passé la nuit ensemble et qu'il n'y a aucun élément qui permette de déterminer qu'il y ait eu cette dispute initiale avant les faits.
Autre élément troublant qui va semer le doute chez les enquêteurs, le retour des analyses des taches de sang retrouvées sur le jean et dans la voiture de Robert Koutama. Il ne s'agit pas du tout de ce qu'imaginaient les policiers.
Ce sang, ce n'est pas du tout celui d'Evelyne, c'est le sien, il souffre d'hémorroïdes. Et ce qu'il avait expliqué aux enquêteurs, le sang qui était présent dans sa voiture, le sang qui est présent chez lui, c'est son sang. Et c'est démontré par le laboratoire polyscientifique de Toulouse.
Non seulement cette preuve s'évanouit, mais un témoignage va bientôt aider à disculper Robert Koutama. En poursuivant l'enquête, les policiers vont mettre la main sur un témoin capital. L'homme est balayeur municipal à Castelsarrasin et c'est surtout un ami de la famille d'Evelyne Furlan. Il a une révélation très étonnante à faire. Selon lui, le matin de la mort d'Evelyne, il l'aurait croisée en ville.
Il a été entendu à 3 reprises. À 3 reprises, il a toujours certifié qu'il était convaincu, qu'il était sûr que le matin des faits, il avait rencontré Evelyne Furlan.
Evelyne était pomponnée, coiffée, maquillée. Il lui en avait d'ailleurs fait la remarque. Elle lui avait fait la bise et lui avait dit « J'ai un rendez-vous pour l'emploi très important, il faut que j'y aille. »
L'homme donne même une heure approximative, aux alentours de 9h30.
Et cet élément innocentait totalement Robert Koutama, puisque Robert Koutama était à 9h15 à Toulouse et que l'on sait qu'il ne peut pas avoir fait le trajet en moins d'une demi-heure entre Castelsarrasin et Toulouse.
Si le balayeur dit vrai, Evelyne était vivante à 9h30. Le crime s'est donc forcément produit après. Mais il y a quelque chose qui cloche. Lorsque le corps d'Evelyne Furlan est découvert, elle est habillée en chemise de nuit. Elle se serait donc déshabillée en rentrant de son rendez-vous à Pôle emploi. Cela paraît peu probable. Le témoignage du balayeur n'est finalement pas jugé fiable.
Le souci, c'est que cette personne va nous donner beaucoup de versions différentes. C'est quelqu'un qui, effectivement, de la vie des personnes qui travaillent avec lui, peut tout à fait effectivement confondre avec un autre jour.
Au final, la justice va considérer qu'il n'existe en l'état pas suffisamment de charges à l'encontre de Robert Koutama pour le maintenir en détention. L'homme est libéré. Et immédiatement, il va voir ses amis pour les convaincre en quelque sorte de son innocence.
Et là, c'était dur, quoi. Il était en nage, il m'a montré les photos de l'été qu'ils avaient passé ensemble et tout. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Déjà, Evelyne, il me dit, je ne la verrai plus jamais. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Et bon, je lui ai dit, si tu n'as rien fait, tu vas retourner au travail, mon gars.
Il est venu de suite me voir à l'entreprise pour s'expliquer, pour me dire, Bernard, j'ai jamais tué ma femme, c'est pas moi, c'est pas possible. Moi, j'y suis pour rien.
Donc, forcément, si c'est plus d'être Robert Koutama, c'est quelqu'un d'autre. Et les policiers n'ont pas l'ombre d'une piste nouvelle. Il va falloir qu'ils cherchent.
Les enquêteurs se tournent alors naturellement vers François, l'amant d'Evelyne. Ils vont bientôt réaliser que l'homme ne leur a pas tout dit. François, le militaire, pourrait-il être lié à la mort d'Evelyne Furlan? Les policiers décident de l'interroger et lui demande tout d'abord de préciser la nature de sa relation avec la quinquagénaire. Et là, surprise, il affirme qu'Evelyne et lui n'étaient pas amants.
Il évoque une relation de tendresse et d'amitié, de confident, beaucoup plus qu'une relation sexuelle.
J'ai décidé de prendre de la distance, et de ce fait, je ne couchais plus avec elle. Nous ne faisions que nous appeler. La dernière fois que j'ai eu un rapport intime avec elle, cela remonte à mars 2007.
Il explique qu'il est par ailleurs marié, qu'il tient à son couple et qu'il a surtout pas envie de perdre, d'anéantir son couple. Donc il conteste en réalité avoir une relation sentimentale avec Evelyne.
Les policiers ont le sentiment que François leur cache quelque chose. Pour avoir le cœur net, ils vont effectuer un prélèvement ADN. et les résultats scientifiques vont leur réserver une surprise. Quand le retour des analyses ADN tombe, les policiers n'en reviennent pas. Le sperme retrouvé par la police scientifique sur la couette d'Evelyne Furlan n'est autre que celui de François.
Or, François, lors de son audition, dit qu'il n'a plus de relation sexuelle avec elle depuis très longtemps. Donc, évidemment, c'est un flagrant délit de mensonge. Donc voilà, quand même, dans l'entourage proche d'Evelyne, un homme qui a une relation intime avec elle et qui veut la cacher. Et pourquoi veut-il la cacher ? Est-ce que ça en fait pas un suspect formidable, ça ?
Devenu principal suspect, François est de nouveau auditionné par les enquêteurs. Sans savoir que son ADN le trahit, François répète toujours la même chose. Evelyne est une amie, rien de plus.
J'ai déjà fait une déposition sur cela. Depuis mars 2007, je n'avais plus de relation intime avec elle. J'avais simplement une grande amitié envers Evelyne qui était un peu paumée.
Face au mensonge flagrant de l'amant, les policiers lui présentent les preuves ADN.
Évidemment, il est coincé. Et là, il va faire le chemin de dire « Bon, effectivement, je vous ai pas dit toute la vérité, mais enfin, je voulais pas que ça s'ébruite. Moi, je voulais surtout pas que mon couple puisse en subir des conséquences. Donc, effectivement, j'ai eu une relation, j'ai eu des relations avec elle depuis qu'on s'est revus. Mais je tenais pas à vous le dire parce que je veux pas que ma femme le sache. »
Il était clair que je ne voulais pas quitter ma femme et qu'entre Evelyne et moi, il ne pourrait rien y avoir. Je ne veux pas casser mon ménage et ma vie actuelle.
Les enquêteurs imaginent alors un mobile possible. Et si François avait éliminé Evelyne parce qu'elle devenait trop compromettante pour son ménage ?
Peut-être Evelyne aurait pu révéler au grand jour l'existence de leur relation. Peut-être ne souhaitait-il pas que l'existence de leur relation soit étalée au grand public.
François continue à nier être le meurtrier d'Evelyne, cette femme pour laquelle il avait des sentiments. Les policiers vont alors vérifier son emploi du temps. Ils retrouvent notamment des ouvriers témoins de ses déplacements. Et sans le vouloir, ils vont fournir aux militaires un alibi en béton.
Les ouvriers étaient déjà devant chez lui puisqu'ils étaient en train de construire une extension, un garage à l'extérieur de chez lui. Ces ouvriers sont restés toute la journée, ne l'ont jamais vu sortir. Et ce que l'on sait, c'est que cette personne était déjà en arrêt de travail, qu'elle ne pouvait pas conduire parce qu'elle avait des douleurs au cervical. C'était sa femme qui l'emmenait aux divers rendez-vous médicaux.
C'est certain, l'homme était chez lui à 8h45 puisqu'il a appelé un plombier afin de lui demander de venir en urgence sur son chantier. Un plombier qui passera un peu plus d'une heure après.
Effectivement, les plombiers sont d'ailleurs passés à 10h du matin. Donc sur le créneau qui est déterminé par les légistes de la mort d'Evelyne Furlan, manifestement, cette personne n'avait pas matériellement le temps ni physiquement les capacités de venir dans l'appartement de Madame Furlan.
François, l'ex-amant de la victime, est donc innocenté.
On va considérer que ses propos sont fiables, sont crédibles. Et donc, par conséquent, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans les investigations.
Les policiers retournent à la case départ. Mais il leur reste une chance de découvrir l'auteur du crime. Car les résultats des analyses ADN effectuées sur le câble ayant servi à étrangler Evelyne Furlan vont enfin arriver sur le bureau du juge.
On retrouve l'ADN d'Otama aux deux extrémités de ce câble. Ce qui veut dire que c'est pas quelque chose dont il s'est servi régulièrement, où on retrouverait son ADN partout. Là, c'est vraiment dans la symbolique du lien qui va servir à étrangler. On le prend à une extrémité, puis à l'autre. On fait le tour et on serre. Et là, le fait, la présence de l'ADN aux deux extrémités a, pour l'accusation, été déterminante.
Et ce n'est pas tout.
L'ADN de M. Koutama est retrouvé sous quatre des ongles de la main droite de Madame Furlan, sous les ongles notamment. L'ADN de Monsieur Koutama est retrouvé sur le col de la chemise de nuit, mélangé à celui de Madame Furlan dans un échantillon de salive. Et on retrouve sur un débardeur de Monsieur Koutama à son domicile une trace de sang avec l'ADN de Madame Furlan.
Robert Koutama est donc réinterrogé par la juge d'instruction pour s'expliquer sur tous ces éléments accablants. Et l'homme a une réponse limpide.
Cet ADN, pour nous, est simplement signe de la présence de Robert Koutama chez Evelyne Furlan, ce qu'il n'a jamais contesté, mais en aucun cas est le signe du fait qu'il ait commis ce meurtre, en tout cas qu'il soit coupable de ce meurtre.
Il va dire, oui, c'est possible, hein, c'est possible que mon ADN soit sur ce câble, parce que ce câble, je m'en suis servi à plusieurs reprises. Mais moi, en aucun cas, je ne suis responsable de ce meurtre.
En tenant le câble uniquement par les extrémités, mon client aurait-il pu faire un double tour autour du cou de la victime pour l'étrangler et sans qu'on retrouve ses traces d'ADN sur toute la longueur du câble.
Et surtout, on ne comprend pas qu'il n'y ait aucune trace de lutte et qu'il n'y ait aucune griffure sur les mains de Robert Koutama si c'était lui qui avait commis ces faits-là.
Concernant la tache de sang sur son débardeur, voici ce que répond Robert Koutama.
C'est une toute petite tâche, ce qui là encore ne veut rien dire. Et de la même façon, il y avait du sang de Robert Koutama chez Evelyne Furlan, lié à ses problèmes de santé à lui, ce qui n'est en soi pas une preuve.
L'avocat de Robert Koutama émet une autre hypothèse.
Et j'en suis arrivé à la conclusion que le meurtrier avait nécessairement porté des gants.
Et Robert Koutama de répéter qu'il est innocent. Mais la juge d'instruction n'est pas convaincue et l'homme retourne en prison. Voici en effet, selon la juge, le scénario du meurtre. Nous sommes en septembre 2007 et Robert Koutama aurait découvert qu'Evelyne Furlan était en train de lui échapper. Elle s'engageait un peu plus avec son amant, François, le militaire.
Robert Koutama, lorsqu'il l'avait appris, avait pris un couteau et avait menacé Evelyne Furlan avec ce couteau en disant « Tu peux pas me faire ça, il faut qu'il rende les clés, voilà, c'est pas possible. » Et donc en n'acceptant pas du tout le fait qu'elle puisse avoir un autre homme dans sa vie et que cet autre homme, qui plus est, puisse avoir les clés de son appartement, ce qui n'était pas le cas de Robert Koutama, il n'avait pas les clés.
Alors là, petit à petit, il va monter en croissance une jalousie de plus en plus enfermante. Et elle s'est sentie de plus en plus menacée, de plus en plus prise au piège. Et d'ailleurs, il avait à plusieurs reprises menacé Evelyne Furlan, soit de la tuer, soit de se tuer lui-même si elle le quittait.
La veille du drame, le 30 septembre 2007, Robert serait venu voir Evelyne pour obtenir une explication. Mais tout ne se serait pas passé comme il l'imaginait. Alors le lendemain, après le départ de Julie au collège, il aurait compris que sa liaison avec Evelyne était terminée. Et il n'aurait pas supporté cet affront.
Robert Koutama est fou d'amour pour Evelyne. Evelyne le trompe. Ce matin-là, elle va le quitter. Et il ne supporte pas et il va la tuer.
Il l'a étranglé avec un câble électrique en le passant deux fois autour de son cou et en tirant très très fort, très violemment, parce que la strangulation est très très marquée, très prononcée. Et ce lien, pour moi, il avait un aspect symbolique. C'est le lien avec lequel il la tue, mais avec lequel il la garde pour lui, pour toujours.
C'est aussi simple que ça, reste à savoir si c'est comme ça que ça s'est passé, mais en tout cas, c'est la version de l'accusation, c'est la thèse de l'accusation.
Le jury suivra-t-il cette version dans le procès qui va bientôt s'ouvrir ? Rien n'est moins sûr. 10 février 2011, 4 ans après le meurtre d'Evelyne Furlan, le procès de Robert Koutama s'ouvre à Montauban.
Au moment où s'ouvre le procès, rien n'est joué. On est sur un accusé qui a toujours nié les faits, toujours. Depuis le premier jour, il nie les faits, et avec un dossier qui est extrêmement fragile, pour ne pas dire bancal.
Un procès en forme de confrontation entre Julie, la fille de la victime, et Robert Koutama, l'ex-compagnon. Une confrontation très difficile.
Pour moi, quand je le voyais, j'avais que de la haine. Je le détestais. Je voulais la pire chose pour lui. C'était vraiment... quand je le voyais, j'avais l'image de ma mère. Donc, de savoir ce qu'il avait fait, et, voilà. Je pouvais pas voir autre chose. C'était pas possible. Pour moi, c'était un monstre.
À l'audience, Robert Koutama fait preuve d'un comportement qui joue contre lui.
Robert Koutama se défend très mal, a du mal à expliquer l'amour qu'il avait pour Evelyne. On a beau essayer de travailler avec lui, il n'y arrive pas parce qu'il ne comprend pas qu'on puisse l'accuser et qu'on puisse l'accuser d'avoir tué la femme qu'il aimait. Donc, en l'état, c'est très complexe, ce dossier. Et ce procès va être compliqué pour nous, en tant qu'avocat de la Défense, car notre principal ennemi, ce sera Robert Koutama.
Quand il répondait aux questions, il était timide, il répondait aux questions qu'on lui posait, mais sans aller au bout, comme un gamin à qui on fait des reproches, quoi.
Je l'ai senti très tendu, très crispé, angoissé.
C'est au tour de Julie de venir à la barre témoigner. L'émotion de la jeune fille va bouleverser les jurés.
Je crois, toute ma vie, je serai marquée. Hein. Des fois, j'aimerais ne plus y penser. Hein. Honnêtement, j'aimerais ne plus avoir cette image-là, mais c'est dur, c'est encore dur. Même à 22 ans, c'est encore très dur. Puis cette image-là, ça me choque, en fait. C'est ma mère, donc bon, de la voir comme ça, c'est dur.
Les avocats de Robert Koutama, eux, accusent le coup. Ils tentent de répéter une ultime fois que, selon eux, leur client n'avait pas de mobile pour tuer Evelyne.
Ce qui est compliqué dans ce dossier, c'est que le mobile, on ne l'a pas. Ce mobile a été créé en expliquant que Robert Koutama était jaloux, ce qui était vrai, était alcoolique, ce qui était vrai, aurait pu être violent, ce qui est déjà moins vrai. Et surtout, on ne comprend pas comment un matin, alors même qu'il a dormi chez la victime, alors même qu'il n'y a pas eu de dispute le soir, Robert Koutama commettrait ce crime sans aucune raison. Ça ne correspond pas à sa personnalité, ça ne correspond pas à ce que disent les gens qui l'ont côtoyé, et ça ne correspond surtout pas au fait qu'à 9h15, il ait été à Toulouse, qu'à 9h15, il ait acheté un produit, et que les gens qui l'ont vu après n'ont pas constaté, chez lui, un comportement inhabituel.
Les avocats de l'accusé critiquent l'enquête, qui leur semble essentiellement à charge. Et surtout, qui aurait bénéficié à l'amant, François.
L'idée n'était pas tant de l'accuser du meurtre, c'était pas ça. C'était simplement de montrer que la position de l'amant correspondait exactement à celle de Robert Koutama, au niveau des mensonges, des contradictions, simplement que le traitement qui lui avait été réservé n'était pas le même que celui de Robert Koutama.
Les avocats vont s'engouffrer dans cette brèche. Et ils auraient eu tort d'ailleurs de s'en priver. Et manifestement, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans cette affaire. En tout cas, il y a trop de doutes, me semble-t-il, pour juger sereinement.
Après 4 jours de procès, les jurés partent délibérés. Il ne leur faudra que 2h30 pour tomber d'accord sur le verdict. Un verdict lourd.
Il est condamné à 18 ans de prison, 18 ans de réclusion criminelle. Il est complètement décontenancé. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il comprend qu'on l'accuse du meurtre d'Evelyne Furlan et qu'il vient d'être condamné pour le meurtre de la femme qu'il aimait.
Robert Koutama fait immédiatement appel. Il est rejugé 10 mois plus tard à Toulouse. La peine est alors alourdie à 20 ans de réclusion.
Alors là, ça a été le choc. Le choc. Et même aujourd'hui, je suis sûr qu'il ne sait pas pourquoi. Il se demande encore qu'est-ce qu'il fait là, quoi.
Face à Robert Kutama qui continue de clamer son innocence, Julie, la fille de la victime, éprouve une peine immense. À sa tristesse s'ajoute l'incertitude. Elle ne connaît toujours pas les circonstances exactes de la mort de sa mère.
J'aurais aimé qu'ils disent la vérité. J'aurais aimé qu'ils disent « oui, c'est moi qui l'ai fait ». Peut-être que ça m'aurait permis d'avancer. Mais non, j'ai toujours ce manque-là. Et je sais très bien que je ne connaîtrai jamais la vérité, je le sais. Et ça me bloque. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ces déclics-là, pourquoi il a fait ça. Et j'ai toutes ces questions-là, je n'aurai jamais la réponse. »